Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de Canal Académie. Je reçois Vincent Trémollet de Villers, du Figaro hors série. Vincent Trémollet de Villers, bonjour.
Bonjour.
Alors, tout comme pour Marie-Antoinette, il y a quelques mois, le Figaro hors série, qui est un partenaire de Canal Académie, a souhaité coller à l'actualité cinématographique en consacrant son dernier numéro au Maya, à l'occasion de la sortie du film de Mel Gibson, Apocalypto. C'est un film que vous avez vu en avant-première, Vincent Trémollet. Qu'en avez-vous pensé ?
Oui, c'est un film que nous avons eu la chance et puis la nécessité de voir pour préparer ce numéro. C'est un film qui est très intéressant à plusieurs aspects. Bon, il y a un certain nombre de caractéristiques dans ce film que je voudrais d'abord évoquer parce que c'est ce qui va être évoqué dans la controverse médiatique qui devrait apparaître quand ce film sortira en France. Elle est déjà apparue aux États-Unis. C'est un film assez violent, pas très violent comme ont pu dire certains chroniqueurs américains, disant que c'était le film le plus violent de l'histoire du cinéma, je ne crois pas. C'est un film qui est comparable dans sa violence au film Braveheart de Mel Gibson, mais qui est beaucoup moins difficile à voir, par exemple, que La Passion du Christ. C'est un film difficile, lourd, on en sort exténué. Mais c'est un film qui n'est ni complaisant dans cette violence, ni complaisant dans ces difficultés que vivent les héros. Le film raconte le premier matin du monde d'un petit village maya dans lequel on chasse le tapir, on danse le soir avec les femmes et les enfants, on y est heureux. Et puis, au petit matin, une tribu venant d'une cité voisine vient dévaster ce village et arrêter un certain nombre d'hommes de ce village pour en faire des captifs et ensuite les offrir en sacrifice pour l'apparition d'un nouveau cycle.
En sacrifice humain, donc.
En sacrifice humain, voilà. Donc ce film se divise en deux parties. Il y a une première partie qui est très belle, qui est un peu la longue marche de tous les déportés, de tous les miséreux, de tous les souffrants, de toute l'histoire des hommes. Donc c'est assez méditatif, c'est assez lent, on voit les coups arbitraires portés à ces victimes innocentes, on les voit monter petit à petit vers leur sort. Puis l'un des personnages parvient à s'évader, je raconterai pas la fin. Et là s'ensuit une deuxième partie beaucoup plus hollywoodienne, on va dire, beaucoup plus rythmée, très très impressionnante sur le plan cinématographique, notamment parce que Mel Gibson a utilisé une caméra, alors je suis pas technicien, mais je crois très novatrice, qui permet de nous faire vivre cette chasse à l'homme comme si on y était. Et donc cette deuxième partie est plus une course-poursuite, qui signifie quand même quelque chose, car ce film a du sens. Mel Gibson est un homme qui a tout subi, qui a tout réussi, qui ne se soucie plus maintenant de savoir s'il plaît ou il déplaît. Il a une pensée qui est une pensée, on peut dire, primitive, mais pas primaire. Et dans cette course-poursuite, il veut montrer un peu ce qu'est, selon lui, la condition humaine, c'est-à-dire une lutte permanente contre des ennemis intérieurs ou extérieurs qui ne s'arrêtera qu'à la fin.
Alors pourquoi, Vincent Trémollet, avoir consacré Le Figaro hors série à un tel sujet ?
Alors il y a plusieurs raisons. D'abord, après notre numéro sur Marie-Antoinette qui donc s'était appuyé sur le film de Sofia Coppola, nous avions vu que ça avait beaucoup intéressé les lecteurs de comparer ce que dit le cinéma et ce que dit l'histoire. Quand nous avons su que Mel Gibson préparait un film sur la chute de la civilisation maya, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas, hein, c'est pas un film à thèse ou un film démonstratif, nous nous sommes dit qu'il y avait là peut-être l'occasion de nous plonger, de plonger les lecteurs dans cette civilisation qui est très peu connue. D'autre part, il y avait un certain nombre d'événements connexes, comme l'inauguration du musée du Quai Branly, et toute une mode dans notre imaginaire de ces civilisations précolombiennes qui pouvaient apparaître comme des civilisations modèles avec une pureté originelle que nous aurions détruite. C'est pour essayer de dire ce qu'est c'était vraiment le monde maya que nous avons décidé de faire ce numéro.
Alors, cela passe avant tout par la pédagogie, et c'est un numéro hein, du Figaro hors-série qui est très pédagogique.
Voilà, c'est un sujet très compliqué. Nous ne sommes pas, nous, des spécialistes du monde maya, bien évidemment. Et donc, nous avons voulu faire le numéro le plus méthodique et le plus pédagogique possible. Dans l'imaginaire, à mon avis, de bien des gens et de nos lecteurs, les Mayas, les Aztèques, les Incas représentent le même monde, on a du mal à les distinguer. Bon, on sait que les Incas sont en Amérique du Sud, les autres sont en Amérique centrale, mais nous avons voulu, par une partie que nous avons appelée donc les précolombiens mode d'emploi, essayer de donner les aspects chronologiques de ces différentes civilisations, en montrer les différentes caractéristiques, le génie architectural, revenir sur ce qu'était le jeu de bal, l'écriture aussi qui est un des mystères fascinants et passionnants de cette civilisation, le temps aussi, la question du temps qui chez eux est première puisque les Mayas étaient parvenus à définir un calendrier solaire et lunaire comparable au nôtre. Donc nous avons voulu par cette partie qui est assez longue, qui fait une trentaine de pages, qui est très accessible, que nous avons illustré par des dessins tirés d'albums d'Alix.
La bande dessinée voilà, de Martin.
Voilà, pour donner un aspect un peu belles histoires de l'oncle Paul en peut-être plus sérieux et plus rigoureux à ces pages et les rendre les plus accessibles et permettre de rentrer dans le sujet. Parce que c'est un sujet qui est un peu intimidant, un peu difficile, et sur lequel nous, occidentaux, nous avons très très peu de repères, en fait.
Alors, on retrouve une chronologie en fin de revue. Il y a également ce que l'on retrouve systématiquement dans tous les hors-séries, les 12 journées hein, de la vie des Mayas. Je reviens tout de même, et j'ouvre une petite parenthèse sur le jeu de balle. Il s'agissait non pas d'un jeu, mais d'une spiritualité propre à la civilisation des Mayas.
Voilà. Dans notre imaginaire, le jeu de balle correspond à l'ancêtre du football. C'était un football quand même beaucoup plus violent, beaucoup plus difficile. Et ce n'était pas un jeu, c'était un rituel et un geste quasiment religieux que ce jeu de balle, dont le vainqueur pouvait parfois être sacrifié.
Alors, la civilisation est peu connue, hein, vous l'avez dit. Nous, occidentaux, nous sentons vraiment éloignés de celle-ci. Qu'avez-vous découvert à travers ce hors-série? Que sont les Mayas que vous décrivez dans ce hors-série?
Alors, nous avons découvert pas grand-chose, puisqu'il y a beaucoup de choses qui ont été découvertes par les spécialistes, mais nous avons peut-être mis le doigt, à mon avis, il y a deux éléments qui sont différents. D'abord, il y a la réflexion sur une civilisation qui a vécu, qui a eu un très bel essor, et puis qui s'est écroulée de façon mystérieuse, bien avant la conquête espagnole, dès le Xe siècle, sans que l'on sache bien pourquoi. Donc, en travaillant sur ce sujet, cela permet de méditer sur la chute des civilisations, qui a toujours, à mon avis, à nous apprendre. Ensuite, il y a un deuxième aspect, qui est un aspect plus proche de nous et plus occidental, c'est l'image que l'on pouvait avoir des Mayas, qui est une image venue du XVIIIe siècle et des Lumières, et qui revient au mythe du bon sauvage. Et en travaillant sur ce sujet, nous nous sommes aperçus que cette civilisation extraordinaire et fascinante à bien des aspects était aussi d'une cruauté sans borne.
Alors, je voudrais tout de même revenir sur cette notion de mort des civilisations. Un article entier y est consacré. C'est un article signé par Dominique Michelet, qui est directeur de recherche au CNRS. On est, non pas dubitatif, mais on est surpris justement par le fait qu'une civilisation meurt aussi rapidement. Éléments extérieurs qui ont fait chuter cette civilisation, ou bien au contraire, éléments intérieurs?
Alors, je ne souhaite pas répondre au fond de votre question parce que les historiens les plus éminents se refusent encore à donner la vraie raison de la chute de cette civilisation. Dans le numéro, nous avons voulu demander à Dominique Michelet, qui est à mon avis le meilleur spécialiste aujourd'hui en France pour traiter cette question, de revenir justement sur les différentes hypothèses qui animent les débats intellectuels ou la littérature un peu plus de vulgarisation sur la chute des civilisations mayas. On a évoqué une crise écologique, on a évoqué des guerres endémiques, on a évoqué des tremblements de terre ou des cyclones. Monsieur Michelet, dans son papier qui est très très intéressant, à la fois très approfondi et accessible aux néophytes, revient sur ces différentes hypothèses et montre à chaque fois ce qu'elles peuvent avoir d'intéressant et de valable et de fantasmatique.
Alors, on renvoie bien évidemment nos auditeurs au hors-série. La question de l'écriture est une question importante dans la civilisation des Mayas.
Oui, parce que c'est une civilisation qui écrivait beaucoup sur les temples, sur les... Bon, il y a les bas-reliefs des temples, il y a les codex aussi. Donc, 4 seulement sont parvenus jusqu'à nous, les autres ayant été détruits après la conquête espagnole. Et tous ces glyphes qu'il a fallu déchiffrer ont donné lieu à énormément d'interprétations. Le premier à avoir fait un alphabet maya était Diego de Landa, qui était paradoxalement celui qui fera l'autodafé de Mani. Autodafé qui verra détruit énormément de statuettes et de codex mayas. Et donc, on s'est beaucoup disputé sur le déchiffrage de cette écriture. Ce que cette écriture nous apporte, c'est un certain nombre de repères chronologiques, de noms de rois. Il y a des stèles qui indiquent, les dernières stèles dans certaines villes comme Tikal indiquent ou le début ou la fin de la splendeur d'une cité-état. C'est un repère indispensable pour comprendre quel fut ce monde.
Alors, il y a aussi la fameuse question des cités perdues. Il y a eu un dessin animé dans les années 80, les mystérieuses cités d'or. Vous partez à la recherche des cités perdues ?
Nous ne sommes pas partis à la recherche des cités perdues. Alors, il y a un aspect archéologique donc, dans le numéro qui revient sur ces explorateurs du milieu du 19e siècle qui, après les premiers découvreurs qui ont été les conquistadors, ont trouvé, et ça a dû être pour eux des moments extraordinaires au milieu de la jungle, ont vu apparaître des pyramides dressées vers le ciel, comme à Tikal ou à Palenque. Plus tard à Bonampak, on découvrira les fameuses fresques montrant un peu la cruauté de ce monde maya que l'on pensait moins dur et violent que le monde aztèque. Donc il y a cet aspect-là. Et en revanche, nous avons voulu, pour donner un peu de modernité, puis aussi un peu de vérité aux propos, parce que quand on ne va pas sur place, les choses n'ont pas la même force. Nous avons envoyé donc un de nos reporters, Raphaël Steinville, qui a passé beaucoup de temps au Guatemala, au Mexique, au Belize et au Honduras, donc dans l'ère maya, pour aller sur les traces des derniers des Mayas, ces 8 millions d'Indiens qui, malgré les mouvements de l'histoire, malgré tout ce qu'ils ont pu subir, continuent à vivre comme vivaient autrefois leurs ancêtres, à pratiquer les mêmes rites, à parler la même langue.
Oui, donc la civilisation meurt, mais une population reste et maintient une certaine tradition malgré tout.
Voilà, et c'est une population qui s'est fait envahir à plusieurs reprises, mais qui à chaque fois est parvenu à mayaniser, que ce soit l'invasion toltèque et que ce soit même la conversion à la religion catholique, puisqu'aujourd'hui, ce que raconte notre reporter, un certain nombre d'offices religieux catholiques se confondent parfois avec des rituels beaucoup plus lointains et beaucoup plus païens qui viennent justement des religions mayas.
Eh bien, Vincent Trémollet de Villers, merci beaucoup. Je renvoie nos auditeurs donc au dernier numéro du Figaro hors-série consacré aux mayas, un numéro que vous retrouvez absolument dans tous les kiosques,
voilà,
ou bien sur le site internet du figaro.fr. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et à très bientôt pour une nouvelle présentation des Figaro hors-série. Thank you.